Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, RFI vous donne la parole et profitez-en, nous sommes vendredi et le vendredi, vous le savez, c'est la libre antenne, c'est l'occasion pour vous tous de commenter l'actualité de votre choix. Et ce matin, les sujets ne manquent pas, hein. Aussi bien au standard que sur nos réseaux sociaux, vous êtes nombreux à nous interpeller, notamment sur les déclarations fracassantes de Donald Trump concernant la bande de Gaza. On nous appelle du Gabon pour témoigner sur les coupures d'électricité, elles sont plus nombreuses et plus longues. Le nouveau gouvernement au Tchad fait réagir, tout comme le calendrier de la transition en Guinée. Plusieurs d'entre vous nous appellent du Sénégal et ce sujet fait débat et polémique sur place. Il s'agit des indemnisations qui sont prévues par le gouvernement pour les victimes des violences politiques sous la présidence Macky Sall. Et sur place, l'opposition dénonce des indemnisations partisane. Voilà donc un aperçu des sujets que nous aborderons tout à l'heure dans la libre antenne dans une demi-heure. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70 et vos réactions également sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Pour commencer, Rémi est avec nous. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Et merci de nous écouter à Kisangani, en République démocratique du Congo. Et vous avez justement des questions concernant votre pays après la libération de Jean-Jacques Wando, alors que sa condamnation à la peine de mort a récemment été confirmée. Il est désormais libre.
Oui. L'expert sécuritaire belgo-congolais Jean-Jacques Wando a été libéré mardi pour raison médicale. Mes questions sont les suivantes. Quel est l'état de son état de santé et de ses conditions de détention?
Oui.
La Belgique peut-elle refuser de l'extrader si les autorités congolaises le demandent?
Alors, la Belgique, puisqu'effectivement, il est rentré à Bruxelles, il est arrivé mercredi exactement, il a été accueilli par ses proches, mais aussi par le ministre belge des Affaires étrangères. Bonjour Pascal Moulégois.
Bonjour Anne Gomez et bonjour à Rémi.
Correspondant de RFI à Kinshasa, Rémi parlait à l'instant de l'état de santé de Jean-Jacques Wando. Il est sorti de prison pour recevoir des soins. J'ai suivi son arrivée à la télévision belge et Jean-Jacques Wando déclarait avoir perdu 20 kilos durant les 8 mois passés en prison. Que sait-on de son état de santé et aussi de ses conditions de détention ?
À 20 kilos, c'est déjà 20 à 25% de son poids initial. En fait, tout ce que l'on sait est que Jean-Jacques Wando était déjà malade lors de son arrestation en mai 2024 ici à Kinshasa. Sa situation s'est considérablement détériorée. On le voyait durant les audiences à la prison centrale de Ndolo, amaigri, implorant les tribunaux pour se faire soigner, même dans un hôpital local, ce qui était rejeté systématiquement. On sait aussi que la prison est loin d'être un endroit aisé. Jean-Jacques Wando était détenu dans une prison militaire au cœur de Kinshasa sur fond des surpopulations carcérales et des mauvaises conditions de détention. Et c'est à ce titre que les autorités pénitentiaires et les autorités politiques du pays ont jugé bon de pouvoir lui accorder la possibilité d'aller se faire soigner à l'étranger, notamment dans son pays, la Belgique. Une personne destinée à se faire exécuter, mais qui est libérée. Bon, c'est un fait rare, en fait, dans les phénomènes judiciaires congolais.
Ouais. Pascal Moulégois, donc Jean-Jacques Wando est arrivé mercredi à Bruxelles. La Belgique peut-elle refuser de l'extrader si les autorités congolaises le réclament?
En tout cas, Juan, quelques avocats que j'ai pu contacter ont été clairs à ce sujet. Il est hors de question de renvoyer Wando dans un pays qui applique la peine de mort, une peine controversée dont la réhabilitation l'an dernier a été fortement critiquée aussi bien par la Belgique que l'Union européenne et d'autres chancelleries occidentales. Même au pays, la peine de mort a soulevé une levée de boucliers de la société civile et de l'influente Église catholique. Il va sans dire que Wando ne retournera plus en RDC, son pays d'origine, pour les procès. Lui, dont les avocats ont traité déjà ces dossiers de politique qui ne peut aussi être réglé que par voie politique.
Ouais, on a justement une question sur ce procès qui s'est déroulé au courant du mois de septembre. Rémi, on vous écoute.
Pourquoi a-t-il été condamné à mort alors que le dossier serait vide selon la défense ?
Alors, condamné à mort en septembre, une peine qui a d'ailleurs été confirmée en appel la semaine dernière, Pascal Moulégois, sur la condamnation de Jean-Jacques Wando.
C'est une décision normalement que nous ne pouvons pas commenter, mais j'aimerais rappeler que Jean-Jacques Wando est un Belge d'origine congolaise. La justice militaire l'a présenté comme étant les concepteurs d'un coup d'État manqué à Kinshasa en mai 2024.
Oui, on se rappelle d'ailleurs des événements 19 mai 2024, des hommes armés menés par Christian Malanga, leader du mouvement politico-militaire New Zaïre.
Oui, ces jours-là, c'était entre 4 heures et 6 heures. Des dizaines d'hommes avaient pris d'assaut la résidence du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avant de s'en prendre au palais de la Nation, qui abrite les bureaux du chef de l'État. Les palais sont contrôlés, les rebelles démontent les drapeaux congolais et les remplacent par celui des Zaïre, l'ancienne appellation du pays. C'est une aventure, en fait, qui avait été stoppée avec l'intervention de la garde républicaine.
Et à l'époque, il faut le rappeler, Jean-Jacques Wando était conseiller chargé des réformes à l'Agence nationale des renseignements, l'ANR. Il était d'ailleurs un proche du chef de l'ANR.
Oui, son véhicule de fonction faisait partie des moyens utilisés par les rebelles pour atteindre les zones attaquées, selon les parquets. Les avocats affirmant qu'aucun lien concret n'existait entre leurs clients et les coprévenus, ils sont une trentaine au total. Un coprévenu qui avait affirmé le contraire, donc qui avait affirmé que Wando était lié à la bande des rebelles, était revenu sur sa déposition affirmant qu'il avait été menacé et torturé pour charger Jean-Jacques Wando devant les tribunaux.
Ouais, et malgré ces déclarations, Jean-Jacques Wando a donc été condamné à la peine de mort.
En tout cas, la diplomatie belge avait fait part de son incompréhension totale compte tenu de la grande faiblesse des éléments présentés durant les audiences. Jean-Jacques Wando et 36 autres personnes, dont 3 Américains, ont tous été condamnés à mort, vous le savez, qui est pour accentuer la pression sur Kinshasa. Bruxelles a dû rappeler son ambassadeur en poste en RDC et convoquer l'ambassadeur congolais en Belgique. Alors aujourd'hui, les avocats de Wando précisent que le casier judiciaire de leur client est toujours vierge car sa condamnation n'est pas encore irrévocable. Il a encore d'autres voies de recours comme la cassation, la révision et la prise à partie pour obtenir l'annulation de l'arrêt qui a été rendu par la cour militaire de Kinshasa Gombe, arrêt qui confirmait sa condamnation à mort en appel.
Ouais, en tout cas, il se battra pour sa réhabilitation, a-t-il dit en arrivant à Bruxelles. Merci infiniment, Pascal Moulégois. On a pris le temps de revenir sur ce dossier qui est très important et très suivi par de nombreux auditeurs. Rémi, a-t-on répondu à vos questions ?
Parfait.
Merci, bonne journée à Kisangani.
Merci à vous.
9h18 ici à Paris, 8h18 en temps universel, 33 9 693 693 70. Nous avons des questions sur la Corée du Sud. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, la Corée du Sud est l'un des pays où le temps de travail est plus important que d'autres. Oui. Ma question est celle-ci. Pourquoi le gouvernement sud-coréen souhaite augmenter le temps de travail alors que le pays est déjà parmi ceux où l'on travaille le plus?
Ouais, Nicolas Roca est à mes côtés. Il va déjà vous répondre. Nicolas Roca, journaliste au service international. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Hervé.
Et ancien correspondant à Séoul, les Sud-Coréens travaillent déjà, et je parle sous votre contrôle, 52 heures par semaine.
Exactement, 40 heures fixes plus 12 heures de temps de travail supplémentaire maximum par semaine.
Et là, si j'ai tout compris, le gouvernement souhaite donc revenir sur cette limite légale du temps de travail, mais ça concerne spécifiquement un secteur bien particulier.
Exactement, celui des semi-conducteurs qui est extrêmement stratégique. C'est, vous savez, toutes ces puces que l'on trouve dans nos portables, ordinateurs, etc. Et c'est une industrie extrêmement importante pour la Corée du Sud. C'est 20% du PIB à peu près. Il y a 2 grandes entreprises, SK Hynix et Samsung Electronics, qui en produisent. Et l'argument du gouvernement, c'est de dire, écoutez, les concurrents, le Taïwanais TSMC, l'Américain Nvidia, eux, leurs employés peuvent travailler 12 heures par jour, travaillent les week-ends. Et donc, nous, si on veut être au niveau, eh bien, il faut qu'on autorise ces entreprises à avoir avoir plus de flexibilité.
Si on veut être au niveau et si on veut être forcément plus compétitif.
Plus compétitif, exactement. C'est de permettre surtout, en fait, dans la période de finalisation de ces semi-conducteurs, de permettre aux ingénieurs de venir travailler le week-end, etc., pour pouvoir essayer de rattraper le retard, notamment sur les Taïwanais.
Hervé, je vous ai coupé la parole. On vous écoute pour les autres questions.
Ok. Une telle loi a-t-elle réellement des chances d'être adoptée ?
Surtout que les syndicats, j'imagine, sont vent debout, Nicolas Roca.
Les syndicats et une partie de la jeunesse, parce qu'en fait, c'est un vieux serpent de mer de l'administration conservatrice, a été déjà revenu durant la campagne présidentielle et dans les premiers mois du mandat du président Yoon. Bon, vous savez qu'il y a des ennuis en ce moment.
Oui.
Il y avait une idée qu'il fallait flexibiliser pour tout le monde, en réalité, et offrir aux entreprises toute la latitude pour décider si leurs employés pouvaient travailler 52 heures ou 70 heures une certaine semaine, puis récupérer après. Et à ce moment-là, il y avait eu une levée de bouclier de la part des syndicats, évidemment, et de la jeunesse, mais aussi une levée de bouclier de l'opposition qui contrôle le Parlement actuellement. Alors là, cette loi, elle a peut-être des chances de passer parce qu'il y a des discussions transpartisanes, l'opposition n'est pas vraiment d'accord, mais ça discute et il y a une possibilité pour qu'elle soit votée d'ici février parce que le secteur...
D'ici février, donc...
D'ici la fin du mois de février,
Dans les prochaines semaines.
Les prochaines semaines, parce que le secteur des semi-conducteurs est tellement stratégique et il y a un peu une inquiétude globale avec la crise politique, le climat économique qui n'est pas optimal pour la Corée du Sud. Et donc l'argument des conservateurs semble percer chez l'opposition.
Hervé, une dernière question peut-être.
Quelles conséquences cette loi pourrait-elle avoir sur les conditions de travail des employés ?
C'est difficile à dire, elle est encore assez floue. L'inquiétude de ceux qui sont opposés à cette loi, c'est qu'on commence par les semi-conducteurs, mais qu'après, en fait, ça s'étende aux autres, sachant
qu'on ouvre la boîte de Pandore.
Exactement, il y a une culture du travail qui est vraiment très dure en Corée du Sud. On attend des employés une disponibilité totale les week-ends pour répondre aux messages. Il faut aller manger avec les autres employés de l'entreprise. Donc, ça ne se limite pas juste au temps de travail effectif. Et puis, dans les petites et moyennes entreprises, ces 52 heures, elles ne sont pas vraiment respectées. Les heures supplémentaires, elles ne sont pas réellement payées. Donc, pour les grandes entreprises, où les 52 heures sont plutôt respectées, il ne devrait pas y avoir d'énormes conséquences, à part pour les semi-conducteurs, les gens qui travaillent dans ce secteur-là. Mais pour le reste, il y a pas mal d'inquiétudes.
Hervé, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci beaucoup, Juan.
Et bonne journée à Kinshasa.
Merci, pareil pour vous en France.
Merci beaucoup, à très vite Nicolas Roca.
Au revoir.
Journaliste au service international de RFI. Les déclarations de Donald Trump, il en fait plusieurs par jour, et elles sont toujours très commentées et elles suscitent la polémique. Marius Trésor, bonjour. Marius Trésor. Ah, je vous entends au loin, mais j'entends du bruit. Que faites-vous ? Êtes-vous là, Marius Trésor ? Bon, on a un petit problème avec Marius Trésor. Il a dû poser, j'imagine la scène. Il a posé son téléphone en se disant, bon, ils sont très bavards à la RFI. J'ai le temps d'aller faire quelque chose et de revenir pour poser mes questions à l'antenne. Il est 9h24 ici à Paris. Vous connaissez ce rendez-vous habituel toutes les semaines. Jessica Taïeb scrute les réseaux sociaux. Elle regarde TikTok, X, Instagram, Facebook. Et le vendredi, elle vient dans ce studio pour nous parler du sujet qui fait le buzz justement sur les réseaux. Bonjour Jessica.
Bonjour Juan.
Et cette semaine, les réseaux se sont de nouveau enflammés pour un débat qui divise les passionnés de football depuis, quasiment 20 ans. Qui est le meilleur joueur ? Messi ou Ronaldo, et les internautes ont tenté d'y répondre.
Tout est parti d'une déclaration choc de Cristiano Ronaldo lundi dans une interview aux médias espagnols El Chiringuito, je cite « Le meilleur joueur de l'histoire, c'est moi, je suis le joueur le plus complet qui ait existé. Tu préfères Messi, Pelé ou Maradona, je l'entends et je le respecte, mais dire que Cristiano n'est pas complet, c'est un mensonge. » Alors CR7 s'auto-proclame donc meilleur footballeur de l'histoire et parle de lui à la troisième personne. Et il n'en fallait pas moins forcément pour que cette question fasse de nouveau le buzz sur les réseaux sociaux. Qui est le GOAT du football, le meilleur de tous les temps, Cristiano Ronaldo ou Messi ? Des publications à plus de 14 000 commentaires sur Facebook et sur X, on est quand même à environ 100 000 tweets par jour depuis la diffusion de l'interview, oui. Et j'ai aussi vu passer sur TikTok des centaines de vidéos qui compilent les meilleures actions de Messi et Ronaldo.
Ouais, et même avec toutes ces images, le débat est loin d'être clos. Les avis restent partagés et très tranchés.
Et ce sont d'abord les inconditionnels de Lionel Messi qui se sont précipités dans les commentaires. Pour eux, les propos du joueur portugais vont trop loin. Je vous lis quelques commentaires. Quelle arrogance, ça prouve que c'est Messi le GOAT. L'humilité, c'est à ça qu'on reconnaît les plus grands. Le meilleur roi, c'est celui qui ne veut pas le devenir. Et cet internaute qui ne se laisse pas impressionner. Messi était dangereux, n'importe où sur le terrain, alors que Ronaldo, c'est seulement quand il est dans la surface. Et celui-ci, on ne verra jamais Messi dire qu'il est meilleur que les autres. C'est son travail qui le dit. Depuis plus de 20 ans, Messi domine le football.
Ouais, et cet internaute n'est pas le seul à mettre en avant justement l'humilité de Lionel Messi.
Et oui, une vidéo de 2023 partagée des centaines de fois sur X montre le joueur argentin en conférence de presse. Il vient de recevoir son 8e ballon d'or et un journaliste lui pose donc la fameuse question. Oui. Pensez-vous être le meilleur joueur de tous les temps?
Et alors?
Et la réponse de Messi, je ne sais pas si je suis le meilleur, je ne me pose même pas la question. Ah. Ça ne m'intéresse pas.
Effectivement, ça tranche avec les propos de Cristiano Ronaldo, mais l'ancien attaquant du Real Madrid est, faut le dire, très soutenu sur les réseaux sociaux.
Et si certains trouvent les propos de CR7 arrogants, pour les fans du joueur, il n'a dit que la vérité. Je vous partage quelques réactions. Ronaldo a raison, c'est un athlète complet physiquement et mentalement. Les autres sont des artistes, lui c'est un soldat. Et c'est vrai que c'est surtout le mental du Portugais qui est mis en valeur dans les commentaires. Je cite « On a beau dire ce qu'on veut, personne n'a plus la mentalité d'un GOAT que Ronaldo ». Et on termine avec cet internaute qui n'a pas peur de la polémique. Messi est moins bon de la tête, Messi court moins vite et Messi n'a pas su s'imposer partout en Europe.
Voilà, et j'imagine que celles et ceux qui nous écoutent ont forcément un avis bien tranché sur la question. En tout cas, le débat est loin d'être clos. On peut en parler bien évidemment tout à l'heure dans la Libre Antenne. Ce sera dans un petit quart d'heure. Marius Trésor est-il de retour ?
Oui, bonjour Monsieur Wan, bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Ah, je vous ai appelé plusieurs fois Marius Trésor, bienvenue sur RFI, vous avez des questions sur une récente déclaration de Donald Trump.
Oui, Donald Trump accuse les autorités sud-africaines de confisquer des terres aux fermiers blancs avec leur nouvelle loi foncière.
Oui.
Ma première question est de savoir en quoi consiste cette réforme visée par les États-Unis.
Ah oui, Donald Trump qui accuse clairement les autorités sud-africaines de mener une politique discriminatoire envers les fermiers blancs. Bonjour Marianne Séverin.
Bonjour.
Chercheuse associée au laboratoire scientifique Les Afriques dans le monde, Sciences Po Bordeaux. L'Afrique du Sud confisque des terres et traite très mal certaines catégories de personnes. Voilà ce qu'a dit Donald Trump. Il fait référence à une loi qui a été promulguée récemment.
Oui, et les personnes qui lui ont donné de fausses informations auraient dû lire correctement la loi.
Que dit-elle alors, cette loi ?
Alors, la loi donne le pouvoir au gouvernement d'acquérir des terres privées pour les utiliser à des fins publiques sous condition d'une compensation financière. Que cette compensation financière soit versée et dans le cas, je dis bien dans le cas, où il y aurait une saisie sans compensation, donc sans indemnisation, c'est lorsque la terre n'est pas utilisée que l'objectif principal du propriétaire n'est pas de développer cette terre ou de générer juste des revenus.
Et donc si je comprends bien, excusez-moi Marianne Séverin, cette loi finalement elle est très encadrée.
Elle est extrêmement...
Il est possible d'exproprier sans compensation, mais vraiment dans des situations très 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 particulières.
Exactement. Or, le problème de Donald Trump, mais j'irai beaucoup plus loin. Donc, en fait, c'est une organisation de la société civile qui s'appelle Afrique Forum, que je qualifierais plutôt d'être une sorte d'association, de mouvement d'extrême droite, qui, depuis de nombreuses années, notamment depuis le premier mandat de Donald Trump, n'arrête pas de dire qu'en fait, il y a un génocide des fermiers blancs, que l'Afrique du Sud, en fait, va se transformer, pour résumer, va se transformer en Zimbabwe. On oublie qu'en Afrique du Sud, il y a une constitution et que cette constitution est solide et que c'est un état de droit, même s'il y a de la corruption, si on sait que parfois les terres ne profitent pas aux Sud-Africains lambda, mais plutôt
effectivement.
Effectivement.
Et d'ailleurs, c'est quand même un engagement de l'ANC de redistribuer les terres. C'est un engagement pris dès la fin de l'apartheid.